vous avez prévenu que la parole était difficile, hein ? Vous l'entendez comme moi. Je préférerais qu'elle ne soit pas dans l'Évangile. D'ailleurs, elle est rarement prêchée. Haïr ses parents, sa femme, son mari, ses proches. Comment est-il possible qu'une parole aussi dure soit dans la bouche de Jésus? C'est dur à avaler, à entendre d'abord, et à avaler ensuite. Parce que l'Évangile est un évangile d'amour. Dieu est amour, proclame la Bible. Et Jésus lui-même a dit: aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Et tout cela n'entre-t-il pas en contradiction avec le commandement de la haine pour ses plus proches? Et devant la dureté, l'impossibilité de cette parole, souvent, les chrétiens prennent une position un peu réservée, on va dire, s'ils ne s'enferment pas dans un silence pudique, ou plaide quelquefois même l'ignorance. Ah oui, c'est vraiment écrit dans la Bible, ça ? Faut vérifier peut-être, non ? Oui. Mais la parole de Jésus est bien là. Alors, il y a plusieurs façons d'y faire face. La première est sans doute assez contestable, parce qu'elle consiste à affaiblir le mot « haïr ». Et donc le texte, en le traduisant d'une manière plus religieusement correcte. C'est ce que fait la très belle traduction œcuménique de la Bible, que je n'ai pas utilisée ce matin. Vous savez pourtant tout le bien que j'en pense. Regardez, elle traduit ainsi: « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, il ne peut être mon disciple. » Les traducteurs de la Tobe, qui sont d'habitude si rigoureux et soucieux de capter le sens de l'original, ont choisi d'affaiblir le verbe original « haïr » parce que je pense qu'il ne leur convenait pas. Et il y a une longue note explicative. Vous savez, plus les notes sont longues, plus ça traduit la difficulté des traducteurs, hein, qui fait du rétropédalage exégétique, pas très convaincant. On passe de la haine des parents, qui est affirmée par Jésus, à la préférence pour Jésus. D'ailleurs, tant qu'à affaiblir le sens de la parole de Jésus, autant citer l'Évangile lui-même. Parce que dans l'Évangile selon Matthieu, le passage parallèle, au chapitre 10, eh bien Matthieu choisit aussi, comme les traducteurs de la Tobe, un sens plus faible. J'ai ce verset, hein, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi », il n'y a plus question des femmes là, je crois, n'est pas digne de moi. Ah ben voilà. Nous voilà tirés d'une mauvaise passe, parce que, avec la caution de l'évangéliste Matthieu, finalement, on peut tourner le dos à Luc, ou faire semblant de ne l'avoir pas vu. On peut partir la conscience tranquille, dire qu'il vaut mieux préférer Jésus à ses parents. La leçon est toute simple, tellement plus avantageuse pour la paix des familles d'ailleurs, hein. Voilà. Sauf que ce n'est pas ce qui est écrit dans l'évangile de Luc. Et moi, c'est ce que j'aime dans la Bible. C'est ce caractère imprévisible, déroutant. Ces paroles poil à gratter, qui dérangent, qui perturbent. Ces paroles qu'on n'arrive pas à ranger quelque part, à intégrer dans notre système croyant. La parole de Dieu est ainsi, sœurs et frères, avant de nous ouvrir un chemin, elle déroute. Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour nous apprendre une belle manière de vivre, une bonne morale religieuse. Oui, il y a bien dans sa bouche le mot « détester », « haïr », « avoir horreur » pour qualifier un certain rapport à la famille, aux parents, aux enfants, aux conjoints. Alors il reste maintenant à faire le chemin, à comprendre pourquoi Jésus utilise un langage aussi radical. Serait-ce, c'est une bonne question, serait-ce pour provoquer ? En fait, Jésus ne penserait pas qu'il faut haïr vraiment ses parents. Il exagérerait pour éveiller l'attention de ses auditeurs, les faire réfléchir. Il se retourne vers la foule qui le suit. Et paf, il envoie cette parole. La provocation comme pédagogie, vous voyez, ce serait un peu ça. Pourquoi pas d'ailleurs, Jésus est sans doute capable de ce genre de démarche. C'est le style Jésus même, on peut dire, souvent très provo, surtout devant l'hypocrisie. On peut dire que l'évangile n'est pas un bel enseignement. Jésus n'est pas un grand penseur de l'Antiquité. Je n'aime pas beaucoup qu'on identifie Jésus à un maître à penser. L'évangile qu'il prêche a pour vocation de nous mettre en état de choc. L'évangile est là pour nous retourner, comme il se retourne lui-même face à la foule. Nous désorienter, pour employer le langage de l'évangile, nous convertir. L'évangile n'est pas donné pour obtenir notre calme approbation, notre adhésion, ou pour confirmer, encore moins, nos certitudes. La Bible est un livre vivant qui nous rend vivants, mais souvent au travers de combats redoutables. Et ce matin, Jésus nous interroge : de quelle nature sont vos rapports avec vos proches ? Quelle place occupe-t-il dans votre vie ? Quelle liberté ai-je vis-à-vis d'eux, mes proches ? Suis-je libre de les aimer, de les contester, de me distancier ou de me rapprocher d'eux, de leur dire oui et de leur dire non ? Et Jésus nous interpelle ici un peu à la manière, un peu, c'est ma façon de le ressentir, hein, un peu à la manière des peintres impressionnistes. Ce qui est saisissant, par exemple, chez un Van Gogh, Vincent Van Gogh, c'est sa façon de peindre les portraits, souvent d'ailleurs le sien. Il se met devant une glace, ou il s'imagine peut-être comment il est, des autoportraits de Van Gogh, il y en a plein. Et quand vous regardez de tout près l'un de ses autoportraits, comme celui-ci, tic, vous voyez des choses assez invraisemblables. Là, sur un visage, enfin, il y a du vert, du bleu, des choses, des oranges, bizarre. D'ailleurs, on peut se demander si c'est un lion ou si c'est un visage humain. Enfin, on ne sait pas. Et dès que vous prenez un peu de distance, que vous considérez l'ensemble, en fait, le peintre apparaît et un personnage est là, vivant, avec un regard. Un regard qui parle, qui peut inquiéter, qui peut interpeller, qui dit quelque chose. Et c'est un peu comme cela que ça se passe avec certaines paroles de Jésus. Et cette parole de Jésus qui appelle à la haine de ses parents doit être lue avec un peu de recul. Il ne faut pas rester enfermé dessus. Et on peut alors saisir un sens intéressant. Et pour cela, il faut être aidé quelquefois par d'autres paroles de Jésus. Il en existe une, en particulier dans l'évangile de Marc, mais il y en aurait d'autres. C'est celle que j'ai choisie, en tout cas, de prendre pour nous aider à prendre cette distance. Elle se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 8, au chapitre 7, Et Jésus est en train de se quereller, comme souvent, avec les pharisiens, à propos de l'hypocrisie religieuse. Et il leur dit, je résume un peu, vous préférez donner à l'offrande du temple ce qui pourrait venir en aide à vos vieux parents qui sont dans le besoin. Vous annulez la parole de Dieu qui a été donnée à Moïse, honore ton père et ta mère. Celui qui parle en mal de son père ou de sa mère sera mis à mort, et vous suivez vos traditions. Vous voyez combien c'est important de prendre un peu de recul. Chez Marc, Jésus nous dit qu'il faut faire passer ses parents avant le service sacré du temple, avant le devoir religieux. Et chez Luc, c'est, semble-t-il, l'inverse. Il faut faire passer le Seigneur avant tout, avant même la famille, avant sa propre vie. Que faire devant des enseignements aussi paradoxaux, voire contradictoires? Faut-il choisir l'un, délaisser l'autre? Où est la vérité? La vérité, elle est probablement quelque part là, entre les deux. Oui, nous devons à nos parents, à nos enfants, nos conjoints, nous nous devons au Seigneur aussi. Nous nous devons à nos vies professionnelles, à notre Église, à nos vies personnelles. Mais que pour que jamais nous ne fassions l'impasse sur des choses importantes dans cette liste, Jésus nous rappelle avec force où sont finalement les absolus. Il dit, l'amour des parents et du conjoint, c'est le commandement de Dieu. Et l'amour du Seigneur, c'est votre vie. C'est votre salut. À nous de faire ce travail de discernement. À nous de nous comporter de façon responsable, de cheminer avec la parole. Ce qui n'explique pas totalement pourquoi cette parole violente de Jésus, qui appelle à la haine, les mots sont tellement forts. Je crois que cette parole, la violence de cette parole, s'explique peut-être comme un contrepoids à un autre danger. Le danger de réduire l'évangile à un gentil programme d'amour pour de gentils chrétiens d'amour. C'est pas ça. Alors, c'est vrai que l'évangile, c'est 90% de paix, d'amour, de grâce, de pardon. Nous l'avons entendu ce matin dans les textes que tu as choisis. De douceur aussi. Mais il reste ces 10% qui dérangent, tu en as parlé aussi, qui inquiètent, qui tranchent. Ce 10% qui fait violence à tout ce que nous avons cru jusque-là. L'Évangile, sœurs et frères, peut nous amener à faire des choix douloureux, à vivre des ruptures, à entrer dans des conflits. Il peut nous amener à nous mettre en colère et à le faire à cause de notre attachement à la vérité du Christ. Jésus ne prêche pas un évangile sympa, mais une parole qui, à certains endroits, est comme une épée à double tranchant. Voilà pourquoi il existe ce genre de parole dans l'évangile. La Bible emploie principalement le langage de l'amour, mais aussi, quand il le faut, celui de la rupture, du combat, de la séparation. Et Jésus s'appliquera à lui-même cette parole. J'évoquais ce texte dimanche, il dira, c'est une parole très dure, une parole de coupure. Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Où est ma mère? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. On doit assistance, respect et amour à ses proches, oui, mais on ne peut pas se laisser enfermer ou détruire par ce qu'ils appellent, eux, un amour pour nous. Et s'ils cherchent à le faire, alors il faut que retentisse l'impératif de l'appartenance première, radicale, exclusive au Seigneur, qui seul est maître de nos vies et de nos libertés. On doit aimer ses proches, mais on ne doit jamais idolâtrer le lien familial. Je crois l'avoir dit dimanche dernier, l'Évangile ne fait pas de la famille un dogme du bonheur, ou le dogme du bonheur. Alors, qu'est-ce que cette haine que Jésus nous recommande ici? Je crois qu'elle n'a rien à voir, strictement rien à voir avec le sentiment haineux. Comme à l'inverse, l'amour chrétien n'a strictement rien à voir avec la sensiblerie romantique. L'amour évangélique, c'est accueillir, écouter et servir le prochain au nom du Christ. Mais la haine évangélique, c'est rejeter le mal jusqu'à entrer dans une guerre sans merci avec lui. C'est quelquefois savoir se couper pour se garder pur. Les violettes. C'est mettre de la distance pour ne pas se détruire soi-même. Mais cette haine, comprenez-le, n'a rien à voir avec la détestation, avec le mépris, avec le désir de détruire l'autre. Jésus aussi, à un certain moment, a ressenti le besoin de s'arracher, de s'extraire, de s'exclure de la présence de ceux qui l'entouraient, de ses plus proches quelquefois, ses disciples, pour se mettre à l'écart. Il a vécu lui aussi cette haine du monde qui consiste à, pour lui en tout cas, à battre en retraite pour laisser Dieu seul prendre toute la place dans sa vie. Si l'on veut aimer notre prochain d'une façon évangélique, c'est-à-dire véritable, eh bien, il faut aussi apprendre à lui échapper, se mettre à l'écart, laisser filer, pour nourrir notre relation avec Dieu dans des moments de solitude, des moments de prière, de retraite, de silence intérieur. Et en ces jours de pré-rentrée, il peut être utile pour vous tous, pour moi, d'entendre cela. Mais aimer, c'est aussi permettre à l'autre d'exister sans nous. Ce n'est pas le plus facile, hein. Ceux qui sont tout le temps dans l'action, tout le temps dans le projet, dans le don, dans l'exigence vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des autres, finissent par mal aimer, par se perdre dans cet amour dévorant. La vie chrétienne est donc faite de, vous le voyez, de matériaux disparates, de jours de paix et de jours de combats rudes. Il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste. Je le cite, un temps pour aimer et un temps pour haïr. Haïr, aimer. Ces verbes nous renvoient à la complexité de nos vies. C'est à cette complexité-là que le Christ s'adresse. Mais il y a dans notre passage une parole qui peut finalement tout éclairer. C'est la parole qui est juste après. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Les chrétiens devraient être donc prêts à tout sacrifier pour suivre Jésus. C'est ce que j'entends là. Et cette vérité pourrait en décourager plus d'un qui sont à sa suite. Mais en réalité, je vois là une vraie bonne nouvelle. La bonne nouvelle. J'aime mes enfants, j'aime ma femme, j'aime mes parents, j'aime ma vie, mais ces amours sont insuffisants pour rendre compte de toute mon existence. Et cela parce que j'ai découvert un jour l'amour de Dieu. Et cet amour-là, eh bien, il m'a permis de remettre tous les amours et toutes les haines de ma vie à leur place, à leur juste place. Et quand chacun est à sa place, alors on peut aimer vraiment. Il n'y a qu'un totalitarisme que je veux accepter dans ma vie, c'est celui de l'amour de Jésus. Un amour total qui donne sa vie sur la croix. Un amour qui libère, oui, un amour qui guérit, un amour qui envoie, un amour qui meurt, sans exiger en retour notre propre mort. C'est donc sous la croix du Christ qu'il faut replacer cette parole et replacer notre vie tout entière. Et dans cette lumière-là, voici que nos haines et nos amours deviennent soudain beaucoup moins lourds à porter. Quelqu'un les porte pour nous déjà. Il n'y a en réalité aucune haine à nourrir, aucun amour à subir. Il n'y a que la liberté irréductible des enfants de Dieu, de celles et ceux qui sont touchés par la grâce et le pardon. Allez donc, frères et sœurs, allez donc, retournez à vos vies, libérés par l'Évangile, libres d'aimer, libres de couper, libres de vivre en disciples responsables du Seigneur Jésus-Christ. Amen.